Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à chercher l'épître de Jacques. Si vous étiez en hébreu, tournez encore quelques pages. Vous êtes à Jacques. C'est l'étude que l'on se propose pour les prochaines semaines. L'épître de Jacques. Je me réjouis de ce temps parce que c'est une épître vraiment qui c'est très imagé, ça va parler à nos cœurs véritablement. L'épître de Jacques, je lis ce matin pour nous les versets 1 à 17 du chapitre 1. Jacques 1, 1 à 17. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jusqu'ici, la parole de Dieu. L'épître porte le nom de son auteur, Jacques. Il semble qu'en signant simplement Jacques, tout le monde comprenait de qui il s'agissait. Il fallait que ce soit certainement un Jacques avec une certaine envergure. Jacques, il y a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament, il y en a au moins quatre, mais les deux qui ont le plus d'envergure, c'est Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée, que l'on trouve beaucoup dans les évangiles. Mais ce Jacques est mort martyr, en Acte chapitre 12, verset 2, et au début du ministère chrétien, dans les années 44. Il ne reste que Jacques, le demi-frère du Seigneur. Comme ses autres frères, Jacques ne croyait pas au Seigneur du temps de son ministère terrestre. Mais à la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ est apparu à son frère Jacques personnellement, ce qui a dû le convaincre définitivement. On le retrouve avec ses frères et sa mère aux côtés des apôtres dans l'attente du Saint-Esprit. Ils sont dans la chambre haute, dans la prière, et ils intercèdent en attendant le Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit descend sur eux et il est devenu rapidement un disciple très impliqué dans l'œuvre à Jérusalem. Paul l'appelle apôtre. Et puis, semble-t-il, j'ai pas de retour en fait ici. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, bon, tant mieux. Il est appelé apôtre. Et il est regardé comme l'une des colonnes de l'Église primitive, avec Pierre, avec Jean, Jacques est une des colonnes. C'est l'apôtre Paul qui dit qu'il a rencontré les colonnes à Jérusalem. Et donc, il est appelé apôtre. Lorsque l'Église se réunit en concile à Jérusalem sur la nécessité de circoncire ou pas les païens pour qu'ils soient sauvés, que c'est lui qui montre que les hommes sont sauvés par la grâce, au moyen de la foi, sans les œuvres, sans la circoncision. Et donc c'est lui, Jacques, qui est l'auteur de cette épître, de cette lettre. Et bien qu'il soit frère du Seigneur, il ne se présente pas comme cela, vous avez remarqué. Il dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. » Ça dit quelque chose sur sa connaissance de son frère, de son demi-frère. Hein. Lui, il est fils de Joseph et Marie. Jésus, lui, est fils de Marie et fils de Dieu. Cette épître est adressée aux premiers chrétiens. On pense que Jacques a écrit dans les années 45 à 49, ce qui fait que c'est l'un des tout premiers écrits du Nouveau Testament. Et il écrit, verset 1, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. C'est ainsi qu'il les appelle, c'est-à-dire ce sont des chrétiens d'origine juive dispersés dans l'Empire. En Actes chapitre 8, il est fait mention de ce que, après le martyr d'Étienne, les chrétiens ont été persécutés à Jérusalem et ils ont fui. Il est dit que quasiment tous, hormis les apôtres, se sont dispersés dans les environs, dans les contrées environnantes. C'est comme si c'était des graines qui sont parties avec le vent là et qui sont allées se planter à différents endroits. Et ces chrétiens sont dispersés, plantés, ils ont commencé à porter du fruit et à planter des églises. De plus, dans cette église, dans la région de Jérusalem, en Judée, il y a eu une grande famine dans les années 45 et 46. Ainsi, la toute jeune église, elle a à peu près une quinzaine d'années, est éprouvée, elle est affaiblie et puis elle est dispersée. Elle a besoin d'être encouragée, elle a besoin de voir sa foi mûrir et porter du fruit, et ça, c'est aussi l'objectif de Jacques, d'encourager son église. Cette église, cette jeune église, c'est aussi notre objectif dans l'étude de ce livre. Vous savez, les épreuves s'invitent dans nos vies. On n'a pas besoin de les réclamer, elles viennent. La maladie, on a plusieurs qui combattent un cancer dans l'église. Le deuil, on a perdu plusieurs membres chers dans ce début d'année. Le chômage, parfois des temps de souffrance, de discorde, que ce soit à la maison, au travail. Parfois des échecs dans les études. Parfois la pauvreté ou les difficultés matérielles. Tout cela nous est familier. Et Jacques va écrire à cette épître, à ces chrétiens du premier siècle, et il va les encourager avec notamment beaucoup d'impératifs. Si vous connaissez l'épître, si vous avez déjà lu l'épître, vous allez voir, c'est truffé d'impératifs. J'en ai retenu quelques-uns pour ce premier thème qu'il aborde sur l'épreuve, traverser l'épreuve avec sagesse. Je voudrais que on regarde du bon côté pour traverser l'épreuve avec sagesse. Demandez la bonne chose, apprenez la leçon et puis enfin veillez sur votre cœur. Regardons tout d'abord, regardez du bon côté. L'épreuve nous atteint tous un jour ou l'autre. C'est une affaire de temps, simplement. Si vous avez l'impression de ne pas être éprouvé, sachez que vous le saurez. Donc, c'est non seulement un message pour ceux qui sont éprouvés aujourd'hui, mais c'est surtout un message pour nous préparer à connaître l'épreuve. La maladie, le deuil, tout cela va nous arriver un jour. Quand on est atteint par l'épreuve, on n'a généralement pas choisi le timing. Vous avez déjà remarqué cela dans certaines vies, les choses s'accumulent comme ça. Les épreuves viennent les unes après les autres. On a l'impression que c'est juste pour nous terrasser. On a souvent beaucoup de mal à comprendre le sens même de l'épreuve. Lorsqu'on est dans la tempête, on est comme l'écume de la mer, vous savez, agité de part et d'autre, poussé par le vent. Alors, vous avez un rendez-vous chez le médecin et puis là, il est très encourageant. Il dit, bon, vous avez un cancer, mais bon, ça va. On a tout un protocole qu'on va mettre en place. Et puis, bon, vous commencez à reprendre un peu courage. Et puis là, on a reçu vos résultats la semaine d'après. Paf, les résultats sont catastrophiques. Et là, vous redescendez. Comme aussi haut que vous étiez monté la semaine précédente, vous descendez. Et puis ensuite, finalement... les traitements sont efficaces, vous remontez, puis vous passez une mauvaise nuit. Puis, wow, quand vous êtes éprouvé au travail, ou quand vous n'avez pas de travail, que vous cherchez un emploi, vous envoyez des centaines de CV, et puis il y en a un qui répond. Oh, votre CV vraiment nous intéresse. Il nous faut vous rencontrer. Alors là, vous êtes en haut, vous pensez que c'est bon, et puis là... Après l'entretien, ils vous disent « Bon, on vous rappelle cette semaine. » La semaine passe. Pas de nouvelles. La semaine suivante, pas de nouvelles. Et là, vous commencez à redescendre. Et puis, ça arrive. Voilà. On aimerait vous revoir encore. Alors, vous remontez pour un deuxième rendez-vous. Parce que vous avez vraiment le meilleur profil. On a 3 candidats, mais vous avez le meilleur profil. Alors là, vous êtes encore super. La semaine d'après, ils vous apprennent qu'ils ont recruté en interne. Et là, vous redescendez. Vous connaissez ça? Sometimes I'm up, sometimes I'm down. On a l'impression que tout cela n'a aucun sens. Que personne ne nous comprend, en fond. Que personne ne mesure notre détresse, qu'on est le jouet de l'ennemi comme la souris, vous savez, entre les pattes du chat. Vous vous doutez que ça va mal finir. Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu ne joue pas avec vous. Il poursuit un but excellent. Le but de l'épreuve est de produire en nous la patience. Le mot ici pour patience, c'est un mot grec hypomoné qui est très riche en sens. Il parle de la constance, de la persévérance, de l'endurance. Voyez ce que Dieu veut produire dans vos vies au travers de toutes ces sommets, ces downs là. Vous êtes en train de progresser, de persévérer, de continuer à avancer avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il poursuit comme bonne œuvre. Dans le Nouveau Testament, c'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but. Et son but, c'est de glorifier Christ, de placer sa confiance en lui, malgré les apparences, malgré les plus grandes épreuves et les plus grandes souffrances. C'est l'attitude de Job lorsqu'il a tout perdu. Il a perdu tous ses biens, il a perdu tous ses enfants, tous ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sa femme lui dit, mais tu demeures ferme dans la foi. Maudit Dieu et meurs. Voilà le programme. il est éprouvé dans son corps. Il est atteint d'un ulcère malin, de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Sa femme s'en va et lui dit, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? Job ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Ça, c'est le début du livre. Mais il sait que Dieu sait, que Dieu est bon, que Dieu est sage. Et cette patience, cette fermeté dans la foi, cet attachement au Seigneur ne se développe que dans l'épreuve. Pour que finalement, nous ressemblions à Jésus-Christ. Verset 4, hein, il dit « Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. » Paul, lui, il parle de la stature parfaite de Christ. C'est cela, être parfait, c'est ressembler à Jésus-Christ dans sa persévérance, dans son attachement au Seigneur, dans son obéissance, malgré les souffrances, malgré les difficultés. Alors regardez du bon côté, regardez ce que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie. Peut-être vous dites, ouais, ça c'est vrai. Ok, c'est vrai. C'est spirituel. Mais c'est plus facile à dire qu'à vivre, non ? C'est vrai. C'est plus facile à vous l'expliquer qu'à le vivre. C'est pour ça que quand on prie, on devrait demander la bonne chose. Qu'est-ce que nous demandons dans l'épreuve ? Souvent, on demande que ça cesse. C'est bon, on arrête maintenant, j'ai compris. On demande d'être délivré. Plutôt que qu'elle ne produise dans nos cœurs tout son fruit de patience, de confiance, d'humilité. Et c'est pour ça que nous avons besoin de sagesse pour ne pas passer à côté de l'occasion que Dieu nous offre de grandir en maturité. John Piper et David Polisson ont écrit un article, co-écrit un article intitulé « Ne gaspillons pas notre cancer ». Et dans cet article, il donne 11 manières de gaspiller et de ne pas gaspiller la période d'épreuve par laquelle on passe. Pour eux, ils ont vécu chacun un cancer. L'un est auprès du Seigneur, David Polisson, l'autre est en rémission, John Piper. Mais par exemple, dans ces manières de gâcher, gaspiller, ils disent par exemple, nous gaspillons notre cancer si nous ne pensons pas à la mort. Voyez-vous, quand on est atteint d'un cancer, on devrait avoir cette idée-là. De penser à la mort, de penser à l'éternité, de penser que naturellement on n'est pas prêt à rencontrer notre Dieu. Il est saint, nous sommes des pécheurs, on a besoin de se réconcilier avec lui. Ne gaspillons pas notre cancer, changeons, plaçons notre confiance en Christ. Il y a une éternité bienheureuse et il y a une éternité qui est appelée de ruine. Et de souffrance. De penser à la mort nous prépare à cette perspective. Même si nous ne connaissons pas cette perspective immédiatement, on la connaîtra un jour. Et puis, nous gaspillons notre cancer si nous cherchons la consolation dans les probabilités de guérison plutôt qu'auprès de Dieu. Vous savez, parfois, on dit, vous avez un cancer, mais 75% on les guérit. Hein. Et là, vous mettez toute votre espérance dans les 75%. C'est un mauvais calcul. Notre espérance, elle est en Christ. Pourquoi? Parce que au final, 100% des gens meurent. La règle, c'est une mort pour chacun. Et c'est ce que nous allons connaître. Et donc, de se préparer à cette perspective. Et c'est pour ça que Jacques, il enchaîne immédiatement. Vous avez remarqué, entre le verset 4 qui parle de l'épreuve, et on a l'impression, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je dis, mais c'est quoi le lien? Le lien, il est très clair ici. J'ai besoin de sagesse. Dans l'épreuve en particulier. Parce que je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive. On demande rarement la sagesse dans ces cas-là. Pourtant, c'est ce dont nous avons besoin. Le propre d'une personne sage, c'est précisément qu'elle sait avoir besoin de sagesse. Quelqu'un a dit que la connaissance, c'est la capacité à décomposer les choses. Vous savez, quand on explique, on est voilà, alors ça, c'est une partie du moteur qui fait ça, et ça, ça fait ça, et ça, c'est ça. Et la sagesse, c'est de rassembler les choses, de mettre du sens aux choses. La sagesse cherche à mettre ensemble mes circonstances personnelles avec le plan éternel de Dieu, ce qui est beaucoup plus vaste. La sagesse cherche à mettre ensemble mes choix et la souveraineté de Dieu sur toute chose. La sagesse m'aide à mettre ensemble ma vie, ce que je vis et ce que et celle des autres, celle de ceux qui m'entourent. La sagesse met ensemble ce qui était avant mon passé. Et aussi ce qui est à venir, ce qui viendra après. La sagesse de Dieu est infinie et il est disposé à la donner à celui qui la lui demande. À tous, simplement, dit-il, sans reproche. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu es perplexe, tu as du mal à mettre ensemble la puissance infinie de Dieu et sa parfaite bonté envers toi. Pourquoi a-t-il permis cela? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? Demande la sagesse à Dieu. Oui, même toi, tu peux la lui demander. À tous, sans reproche, il la donne. Il ne va pas te rappeler toutes tes erreurs du passé ou toutes les fois où tu n'as pas écouté. Mais demande avec foi. La foi, ce n'est pas une affaire de quantité, mais de position. Quand tu pries, tu demandes à Dieu qui est seul sage. Il sait ce qu'il fait, il est bon, il est étranger au mal, il n'a que de bonnes intentions à ton égard, il ne fait pas de favoritisme, il ne conçoit que des desseins en accord avec sa sainteté, sa justice, son amour. Tu n'es pas maudit. Vous savez, parfois on a l'impression, mais c'est pas possible, c'est l'accumulation, je suis maudit. Non. Tu n'es pas maudit. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas maudit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été maudit à ta place, pour que tu ne le sois jamais. Tu es éprouvé. On a vu ça il n'y a pas très longtemps. C'est impossible de maudire le peuple choisi de Dieu. Son peuple. Vous êtes bénis. Et vous êtes bénis quand bien même vous êtes éprouvé. Et ça, ça fait une grande différence. Troisième impératif, apprenez la leçon. Versets 9 à 12, il évoque ici, je pense qu'il prend un exemple, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Jacques, il nous pousse là dans les choses pratiques. Et donc, il prend cet exemple. En fait, qu'il soit pauvre ou riche, un chrétien peut tirer des bienfaits spirituels durables, des calamités et des crises de la vie. Ainsi, le frère de condition humble peut toujours se réjouir d'être un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Vous savez, la pauvreté a probablement rendu son cœur plus sensible à la bonne nouvelle de l'Évangile. En Apocalypse, chapitre 3, l'apôtre Jean écrit de la part du Seigneur à l'église de Laodicée, et il dit à cette église, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et j'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour t'oindre les yeux afin que tu vois. » Rendez compte, parfois la richesse a endurci nos cœurs, a voilé ce que nous sommes véritablement, nous donne une mauvaise perception de ce que l'on est, de ce dont on a besoin. La pire des choses, c'est de dire « j'ai besoin de rien ». Le pauvre dit « j'ai besoin de Dieu ». Nous avons besoin de Dieu, c'est la réalité. Maintenant qu'il est en Christ, il a été béni de toute bénédiction céleste en lui. Il montre que son bonheur. Et ça, si vous êtes en difficulté matérielle, pensez à cela. Vous avez l'occasion de montrer au monde que votre bonheur ne dépend pas de votre richesse, mais qu'elle dépend de votre relation avec Dieu, d'être connu et aimé de lui. Christ est meilleur que les richesses, vous pouvez le montrer. Aux riches, il ne dit pas que le riche se glorifie ou se réjouisse de sa richesse, non ? Il dit, mais qu'ils se réjouissent d'avoir été humiliés. Vous savez, à l'époque au premier siècle, aux chrétiens auxquels Jacques s'adresse, beaucoup ont été dispersés. Ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné. Les riches ont beaucoup perdu. Les pauvres n'avaient rien. Ils ont moins perdu. Et là, il dit, vous les riches, là, vous pouvez vous réjouir d'avoir été humilié de la sorte. Parce que naturellement, vous mettiez votre confiance dans vos richesses. Maintenant, vous la mettez en Christ. Vous la mettez en lui, votre espérance. Vous vous souvenez que la véritable richesse, c'est celle qu'on a placée en lieu sûr, là où la teigne, où la rouille n'atteint pas, où le voleur ne peut pas prendre. Vous savez maintenant que vous allez passer comme la fleur de l'herbe. Donc toute épreuve qui nous détourne de l'amour des choses éphémères et qui nous recentre notre intérêt et notre affection sur les choses célestes est en réalité une bénédiction. Les revers dans les affaires terrestres nous poussent à placer notre confiance en Dieu et à amasser pour le ciel. L'homme véritablement heureux est celui qui supporte patiemment la tentation, c'est ce qui est dit au verset 12. C'est-à-dire qu'il traverse cette tentation, cette épreuve, c'est le même mot grec, pour qu'il la traverse avec sagesse. Vous savez, nous réagissons toujours aux situations qui nous arrivent, à nos circonstances, qu'elles soient favorables ou défavorables, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. La manière dont nous réagissons est révélatrice de l'état de notre cœur. Ce n'est pas une situation qui m'oblige à réagir de telle ou telle manière, mais ce sont mes pensées et les motivations de mon cœur. Si ma motivation est d'être riche, alors je vais être frustré si je ne le suis pas. Ou je vais être jaloux de ceux qui le sont. Je vais être envieux, insatisfait, quel que soit mon niveau de richesse, parce qu'il y aura toujours plus riche que moi. Je vais tout faire alors pour être plus riche. Quitte à tricher sur ma déclaration d'impôt. Vous avez jusqu'au 30 mai, hein ? Quitte à voler, à mal payer mes ouvriers, à décrier une transaction, puis me frotter les mains une fois que l'affaire est conclue. Vous savez, ce proverbe, l'acheteur dit « mauvais, mauvais !» Et puis, il s'en va et se félicite. « J'ai fait une bonne affaire !» La sagesse, c'est de vivre ces circonstances en intégrant ce que Dieu est, ce qu'il dit, ce qu'il a fait en Christ, en intégrant son évangile. Dieu est riche, il me donne ce dont j'ai besoin parce qu'il m'aime. Mon cœur est cupide, j'ai besoin d'être racheté par Christ, qui pour moi s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté je sois enrichi. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ, je peux me réjouir de ce que j'ai, même si c'est peu comparé à certains. C'est sa bonne main qui me le donne. Et il m'aime parfaitement. J'ai vu son amour pour moi à la pauvreté, à son dénuement sur la croix. Je peux le remercier pour tout et joyeusement lui ressembler en étant généreux à mon tour envers d'autres comme lui l'a été envers moi. Voyez-vous comment traverser les épreuves, la tentation, lorsque vous êtes malade, au chômage, seul, pauvre. C'est de cette manière-là, de conduire vos pensées vers Dieu. Apprenez la leçon. Apprenez la leçon, quelle qu'elle soit. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, apprenez la leçon. Et c'est ce que récompense le Seigneur. Il dit, verset 12, « Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Au verset 2, il avait dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Eh bien, ça a trouvé son accomplissement ici, au verset 12, dans la promesse que Dieu bénit la persévérance. Certainement, il y a une couronne de vie à venir, mais il y a aussi une joie immédiate qui vous est donnée. Alors enfin, veillez sur votre cœur, versets 13 à 17. L'autre danger que nous courons dans l'épreuve, c'est de laisser échapper de nos bouches quelques mauvaises paroles. Vous avez remarqué, il dit ici, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise. Quand on est tenté, quand on est éprouvé, il y a cette tentation de dire des choses qui ne sont pas justes. Et ici, c'est Dieu qui me tente. Avec l'épreuve, vient la tentation de pécher. Si on peut dire, l'épreuve n'est rien, dans le sens, elle est ni bonne ni mauvaise, c'est notre réaction qui peut nous faire tomber ou qui peut nous faire progresser. La tentation d'accuser Dieu, elle nous vient naturellement parce que c'est Dieu qui est le maître des circonstances. Donc on va dire, c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui m'éprouve là. Mais Jacques écarte Dieu du problème, vous avez remarqué ? Il dit, verset 13b, « Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Le problème ne vient jamais de Dieu. Jamais. Là encore, c'est pas lui. Reste les autres et moi. Certainement, ça doit être les autres. Même si les autres peuvent être parfois une partie du problème, ce sont pas les autres, ni leur réaction, ni leur pression sur moi qui me font pécher. Mettez-vous ça dans la tête et gardez-le précieusement. C'est pas les autres, c'est pas le monde, c'est pas les circonstances, c'est pas les amis, c'est pas l'église, c'est pas qui vous pousse à pécher. C'est votre cœur. Versets 14 et 15, voilà ce que je vous lis dans la version Semeur. Il dit, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous et qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ça veut dire que vous vous mettez en colère, non pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que vous cédez à votre cœur colérique. Vous avez sombré dans le découragement, non pas parce que plus rien n'allait dans votre vie, mais parce que votre cœur incrédule a arrêté de regarder à Christ. Vous êtes tombé dans l'immoralité, non pas parce que vous étiez seul, mais parce que votre cœur a cultivé des pensées impures. Vous avez volé, non pas parce que vous êtes issu d'un milieu défavorisé, mais parce que vous avez cédé à la convoitise de votre cœur. C'est un peu difficile à entendre, j'en conviens, mais c'est aussi un encouragement extraordinaire. Parce que cette vérité, elle nous affranchit. Vous ne pouvez pas changer les circonstances. Vous ne pouvez pas changer votre passé, ni les gens qui vous entourent. Mais vous pouvez changer vous-même en conduisant votre cœur malade, votre cœur pécheur, à Dieu lui-même. Et Dieu peut et veut changer votre cœur pour que vous puissiez triompher des difficultés. Au verset 16, il dit « Ne vous y trompez pas ». Et Jacques, c'est tout au long de son épître, hein, il a déjà dit au verset 2 « Mes frères ». Là, il dit « Mes frères bien-aimés ». Là, c'est le pasteur qui parle et dit « Je vous aime ». Je vous aime. Et puis surtout, vous êtes aimés du grand pasteur. Écoutez bien cette vérité. Et là, il donne cette parole. Dieu n'est pas tenté par le mal. Il agit toujours avec de saines et excellentes motivations à notre égard. Mais nous ne le voyons pas toujours comme lui. Dieu n'éprouve pas dans le sens qu'il essaie de me faire tomber. Jamais Dieu, ça ne viendrait jamais cette pensée à un bon père ou à une bonne mère de famille. Ça ne peut pas monter juste à la pensée de Dieu de nous faire tomber. Jamais de la vie. Dieu est entièrement digne de confiance. Si on blâme Dieu pour une épreuve, on est déjà en train de glisser vers le péché. Jacques dit, verset 17, « Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce qui est bon dans notre monde vient de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu n'est pas bon. Ce qui vient de Dieu est bon, même si nous ne voyons pas immédiatement que ce soit bon. » Ok ? L'apôtre Paul, il rapporte, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, il rapporte cette chose. Il dit qu'il a eu des révélations extraordinaires et pour qu'il ne s'enorgueillisse pas de ces révélations qu'il a eues, il lui a été mis une écharde dans la chair. Et il continue en disant, « Un ange de Satan m'a souffleté. » Il m'a été mis une écharde dans la chair. C'est qui le « il » ? Dans la Bible, on appelle ça des passifs divins. Il. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Peut-être que c'était en... qu'il y avait une volonté du diable d'écraser Paul, certainement. Mais le diable, lui, on l'a appris avec Job notamment, il est sous le contrôle entier de Dieu. Et donc Dieu a permis au diable de souffleter Paul. Le diable avait des mauvaises intentions, Dieu en avait des bonnes. Il voulait le bien de Paul. Et le bien, c'était pour qu'il ne se s'enfle pas d'orgueil. Parce que s'enfler d'orgueil ici, ça aurait été catastrophique. Paul, il a demandé à 3 reprises, « Seigneur, mais secours-moi, délivre-moi de cette épreuve !» Certains pensent que c'était une infirmité. Et Paul se dit, « Mais si j'avais pas cette infirmité, je pourrais servir mieux le Seigneur !» Et Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ça montre qu'il ne veut pas simplement enlever cette infirmité, Non, il a mis cette infirmité parce que il veut que Paul soit préservé de l'orgueil et que toute la gloire revienne à Dieu, parce que c'est comme cela que l'évangile va se répandre le plus puissamment possible. Et Dieu fait cela aussi dans nos vies. Ma grâce te suffit. C'était donc par amour pour Paul, pour son bien, que Dieu permettait cette souffrance, pour le préserver de l'orgueil qui ruinerait et affaiblirait son témoignage, qui l'éloignerait de la ressemblance de Christ, Christ qui est doux et humble de cœur. Et Dieu ne change pas. Nous sommes capables de bonté. On est capable de bonté de temps en temps. Mais on est aussi capable de mauvaises choses. On change. Ces changements ne se produisent pas chez Dieu. Dieu, il est toujours bon. Dieu est parfait. Il ne peut pas être meilleur que ce qu'il est. Il ne peut pas être moins bon. Il est le Père des Lumières. J'aime cette expression, le Père des Lumières. C'est que c'est lui qui a inventé le concept. Tout ce qui est lumière, ça reflète un peu Dieu. C'est Dieu qui met la lumière, qui éclaire notre pensée. Il y a quelques semaines, il y a eu une éclipse totale du soleil qui a été visible en Amérique du Nord. C'est-à-dire que la lune a caché le soleil en plein jour. Ça n'arrive jamais chez Dieu. Jamais. Dieu est toujours bon. Peut-être vous ne percevez pas qu'il l'est, qu'il le soit. Dans les situations immédiates de votre vie. Mais Dieu l'est. Et un jour, ça nous sera révélé que tout cela était parfaitement bon pour nous. Enfin, nous savons que Dieu nous aime parfaitement, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu a donné son Fils pour que nous soyons pardonnés et que nous devenions ses enfants. C'est le plus grand don qui soit. C'est le plus grand don qui pouvait être fait. Ayant donné ce que l'univers, ce que Dieu lui-même avait de plus précieux, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si vous connaissez un temps d'épreuve en ce moment, regardez à Dieu. Dieu ne vous a pas oublié. Il fait en vous toute bonne œuvre, une œuvre excellente. Il vous transforme à l'image de Jésus-Christ, malgré vous. Demandez à Dieu la sagesse pour traverser cette épreuve. Prenez patience. C'est le moment pour que votre foi s'enracine en lui. Non pas parce qu'il donne des circonstances joyeuses, elles ne le sont pas, mais parce qu'il accomplit en vous son dessein parfait au travers de ces circonstances. Alors ne gaspillez pas votre épreuve. Le projet de Satan dans votre épreuve est de détruire votre amour pour Christ. Au fond, son projet à lui, c'est « maudit Dieu et meurt ». Vous voyez qui inspirait la femme de Job. Le projet de Dieu, c'est d'approfondir notre amour pour lui. Ne doutez pas de ses intentions. Dieu vous aime. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer parce que tu nous as révélé dans ta parole et nous avons expérimenté dans nos vies que tu es bon. On l'a observé à de multiples reprises, Seigneur, dans le passé. Alors, lorsque on est éprouvé et que la tentation vient de penser autrement, nous voulons nous rappeler que toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le plus grand don qui soit, tu l'as fait en Jésus-Christ. Tu l'as donné à la croix pour que nous puissions être nous rachetés de notre vaine manière de vivre, de la malédiction de la loi. De sorte qu'on peut être béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et Seigneur, on veut te prier pour que ceux qui sont éprouvés en ce moment même portent leur regard vers toi. Qu'ils puissent te demander la sagesse. Seigneur, qu'ils puissent apprendre la leçon d'être rendus semblables à Christ. Et puis enfin de veiller sur leur cœur, veiller sur la bouche, leur bouche, Seigneur, pour ne pas déjouer, pour ne pas manquer l'occasion de te glorifier. Seigneur, viens en aide. Tu es un Dieu plein de miséricorde, de bonté. Nous sommes tes bien-aimés. Et même si les circonstances nous sont défavorables, on veut apprendre de cela, que tu nous aimes, simplement parce que tu le dis, parce que tu nous le révèles aussi dans ta parole, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.